Monsieur Jacques Rancière, bonjour. Donc, avant
Bonjour.
tout, merci d'avoir accepté cette rencontre que l'on dirait un peu singulière hein, au vu des circonstances, vu que cela, ça va être par vidéo et non physiquement dans un espace commun et partagé. Donc, vous êtes un éminent philosophe et vous êtes l'auteur d'une trentaine d'essais sur la politique et l'esthétique, et parmi lesquels j'aimerais citer peut-être trois qui me semblent vraiment fondamentaux et assez représentatifs peut-être de votre pensée qui lie l'esthétique et la politique. C'est Le spectateur émancipé, Le partage du sensible et surtout Aesthésis, dans lequel vous étudiez les conditions sociales et politiques d'une quinzaine de séquences artistiques prises dans divers registres de la pensée. Et ici, nous allons aborder votre dernier ouvrage, donc sorti aux éditions La Fabrique, et qui d'ailleurs vous avertissez dès le début, vous dites qu'il pourrait être une partie de Aesthésis, ou en tout cas une sorte de séquence supplémentaire. Donc ce livre, c'est Le temps du paysage, aux origines de la révolution esthétique. Donc il y a un livre assez dense, d'une grande érudition. Et donc on va revenir justement sur le corpus que vous citez à l'intérieur, et sur quelques concepts aussi. Donc, dans cet ouvrage, en fait, le paysage est envisagé comme un objet de pensée spécifique et étudié lui-même dans un temps, on va dire aussi spécifique, qui est celui du XVIIIe siècle. Un siècle durant lequel l'appréciation de la nature, et en l'occurrence donc l'art des jardins, connaît ce qu'on pourrait appeler une promotion, si je peux me permettre, sans précédent dans l'histoire de l'esthétique occidentale. Et en effet, vous commencez directement le livre avec ce fait, c'est qu'en 1790, le philosophe Emmanuel Kant fait de cet art des jardins un paradigme de l'expérience esthétique et l'introduit dans la classification des beaux-arts. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler de ce choix, en fait, de cette intromission qui n'était pas forcément évidente à l'époque de Kant?
Oui, disons, si on remonte aux très lointaines origines de ce livre, c'était vraiment un cours donc à Vincennes il y a près de 50 ans, en tout cas plus de 40 ans, où j'avais essayé de penser les concepts esthétiques à partir de leur origine, et notamment je m'étais intéressé à quelque chose qui revient dans ce livre, à savoir les voyages d'Alexandre Gilpin, donc dans les montagnes du Cumberland, des Highlands, et comment certains types de récits de voyage, certains types de descriptions de paysages font former en quelque sorte le cadre de ce qu'allait être la théorie du sublime chez Kant. Quoi. Donc c'est une très vieille histoire sur laquelle je suis un petit peu revenu. Quoi. Mais c'est effectivement, d'abord j'avais cette espèce de filon un petit peu, à savoir les voyages, le paysage et la catégorie du sublime. Et puis, j'ai repris Kant, et en prenant Kant, vous savez, pratiquement quand je m'intéresse à un sujet un petit peu d'esthétique, souvent il y a des choses, des textes sur lesquels je reviens, quoi. Je relis pour voir s'il y a quelque chose finalement qui peut faire symptôme, quoi. Or en l'occurrence, donc j'ai relu l'analytique du beau dans la critique du jugement de Kant, et je suis tombé sur cette division des beaux-arts et sur le fait que l'art des jardins y apparaissait, quoi. Et l'art du jardin y apparaissait comme un art libéral. Et ça m'a paru quelque chose de très, très significatif. On peut dire c'est la seule fois, on peut dire dans ce que je connais, moi, de l'histoire de la philosophie, où véritablement, les jardins font partie des beaux-arts. Donc voilà, je suis parti de là. C'est pas ça, si vous voulez, qui a fait le départ de ma recherche, quoi, hein. Mais c'est ce qui m'a permis un petit peu d'introduire en quelque sorte cette espèce de rencontre qui n'est pas forcément évidente pour un lecteur entre, le jardin, le paysage et la philosophie. Quoi. Il y a un moment donné où quelque chose qui s'appelle l'art des jardins apparaît comme appartenant aux beaux-arts et, on y reviendra sans doute peut-être, plus paradoxalement, appartenant non pas à un art architectural, mais à un art pictural. Puisque les jardins, dans la division que fait Kant, apparaissent comme, un art qui appartient à la peinture. Donc si vous voulez, j'ai introduit, j'aime bien en quelque sorte, toujours quand je commence un livre, finalement, pointer quelque chose qui fait problème, quoi, qui va fournir un petit peu comme le nœud, pour dire, de toute l'intrigue, puisque un livre dit théorique, c'est quand même aussi un livre où il y a une intrigue.
Et justement, vous avez pointé du doigt cette petite particularité dans l'écrit de Kant. Et justement, je parlais d'une chose qui n'était pas forcément évidente, c'est parce que avant le jardin n'est pas, l'art des jardins n'est pas considéré vraiment comme un art à part entière, ou tout au moins ne fait pas partie du système des beaux-arts. Il est plus du côté de l'architecture que du côté de la peinture. Et donc, qu'est-ce qui a géré cette évolution? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est dû à une forme d'empirisme, peut-être de la pensée autour de la nature? On sait que Roger de Pile, à la fin du XVIIe siècle, déjà parlait du paysage ou de la peinture de paysage comme étant une nouveauté au sein des principes de l'unité et de composition. Il y a quelques auteurs aussi, des poètes qui se permettent de dire que l'art des jardins est comme de la poésie, comme de la peinture. Est-ce que c'est ce constat, en fait, que Kant fait ou pas?
Je pense qu'il y a quelque chose de plus essentiel qui touche au concept même d'art. Hein. À savoir que, nous, on est habitués à une certaine idée de l'art, quoi. Or, il faut bien voir que cette idée est elle-même récente, finalement, et d'une certaine façon contemporaine de ce que je décris, quoi. Parce qu'un art, en général, bon, c'est une manière de faire. Cette manière de faire peut être plus ou moins virtuose, plus ou moins sophistiquée, mais c'est pas pour autant que c'est considéré comme un art au sens noble du terme, ou un bel art, comme on disait à l'époque, quoi. Donc, par conséquent, l'art du jardin, le jardin était développé depuis déjà des siècles, quoi, donc avec des choses extrêmement compliquées, dont bien sûr le jardin de Versailles sont l'exemple. Et pourtant, ce n'était pas des beaux-arts. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait une certaine idée du bel art, qui était d'abord quelque chose qui devait fournir simplement du plaisir, quoi, et n'avoir aucune utilité, premièrement. Et deuxièmement aussi, quelque chose qui devait imiter, justement, la nature, quoi. Par conséquent, l'art du jardin était quelque chose de très perfectionné, mais en même temps, disons, c'était une espèce de perfection, qu'on peut dire, technique, et au service d'une espèce de grandeur sociale, mais ça n'était pas considéré comme faisant partie des arts dits libéraux ou des beaux-arts. Et ce qui est intéressant, à l'époque de Kant, finalement, c'est cette espèce d'évolution qui va faire du jardin un art en le séparant, en quelque sorte, de ce que le mot d'art peut comporter de perfection technique, d'imposition d'une volonté aux choses. Au fond, le jardin va devenir un art dans la mesure où le jardin s'oppose précisément à l'art en tant qu'imposition d'une volonté aux choses, en tant que technique atteignant une certaine perfection. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est dans la mesure où l'art du jardin est moins un art de la volonté, moins un art de la virtuosité technique, c'est dans cette mesure-là qu'il va pouvoir entrer dans le royaume des beaux-arts.
D'accord, ouais. Ça devient un art des apparences qui imite des apparences et non plus seulement un art qui cède de matériaux empruntés à la nature. Du coup, ça va être la grande distinction pour Kant, en fait.
Pas pour Kant, c'est-à-dire, il y a un livre qui fait loi au XVIIIe siècle, qui est complètement oublié, mais à l'époque, dis-le-moi, tout le monde l'a en tête, c'est le livre de l'abbé Charles Batteux, qui s'appelle donc sur les beaux-arts. Et ça, c'est une espèce de... C'est la grande norme. Quand on parle de beaux-arts, on se réfère à ça. Batteux distingue bien deux choses, quoi. C'est-à-dire qu'on se sert de la nature, des produits de la nature, c'est une chose. On imite la nature, c'est complètement autre chose, quoi. Donc voilà, la peinture imite la nature. Les artistes des jardins, ils se servent des produits de la nature. Par conséquent, c'est à l'écart, quoi. C'est utilitaire. La nature est finalement utilisée et aimée. Elle n'est pas imitée. Alors bon, on va arriver effectivement à cette espèce de moment un peu de paradoxe. Il s'agit de penser en quelque sorte, faire avec de la nature, des imitations de la nature, à peu près ça, quoi.
Mais justement, sur cette question de la nature, vous citez aussi Thomas Wattley, et qui lui va jusqu'à parler de scène de la nature. Et à travers cette expression, il remet peut-être en cause le terme même de nature, qui était généralement synonyme plus des passions humaines, plus des expressions, des sentiments. Est-ce qu'il y a aussi ça? Est-ce qu'à en soi, c'est une révolution aussi, peut-être, de dire que à travers la scène de la nature, c'est la nature elle-même qui maîtrise et qui devient artiste?
Oui, il y a deux choses, je pense. La première chose qui est effectivement le changement de l'ensemble des représentations liées au mot même de nature, quoi. Parce que la nature, au XVIIe siècle, c'est absolument pas les arbres, les oiseaux, les rivières, les orages, rien de tout ça. La nature, au XVIIe siècle, si on regarde le dictionnaire de l'Académie, bon, c'est l'ensemble des choses, mais c'est la loi interne de l'ensemble des choses, c'est le principe interne d'une action. Et par conséquent, quand l'art imite la nature, il l'imitait essentiellement à l'époque en sachant représenter, bon, par la poésie, par la peinture, éventuellement, les passions humaines. Donc, c'était ça la nature. C'était la nature, ça n'avait rien de vert, quoi. Et puis, petit à petit, justement, au XVIIIe siècle, la nature va s'identifier de plus en plus au spectacle, précisément, donné par le paysage, au spectacle donné par les jardins, donc à une combinaison d'air, d'eau, de lumière, de terre, quoi. Bon, ça, c'est le premier point important. Et pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Parce que, précisément, la nature va donner, disons, l'exemple de quelque chose qui n'est pas l'objet de l'art, quelque chose qui est beau sans être, finalement le résultat d'une intention de faire de l'art. Et là, bon, on passe au second point qui, pour moi, est très important. C'est effectivement qu'il y a un moment où la nature n'est plus quelque chose qu'on imite pour faire de l'art ou on imite dans l'art, mais la nature est proprement une artiste elle-même. Et c'est ça, effectivement, qui est dans ce terme de scène, qui est effectivement dans ce livre de Thomas Huxley qui paraît, 20 ans avant la critique du jugement de Kant, et, qui est un ouvrage très, très important à l'époque, ça paraît en Angleterre en 1770, un an après c'est traduit en français, quoi. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui fait époque, là il y a ce terme des scènes de la nature qui revient, mais c'est pas seulement chez lui, enfin, disons dans toute la littérature anglaise sur les jardins, le mot de scène est extrêmement important. Les peintres composent des paysages, composent des tableaux. La nature, elle fait proprement des scènes. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une scène? On peut dire que c'est un certain arrangement, finalement, par exemple, entre des rochers, des lacs, un ciel, entre des arbres, et des étangs, ou que sais-je. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, la nature est devenue une artiste, à savoir qu'elle fait ce que fait un peu tout art à l'époque, à savoir composer un tout avec des éléments variés. Unité dans la variété ou variété dans l'unité, c'est un petit peu le grand mot d'ordre un petit peu pour les arts de l'époque. Donc la nature devient elle-même une artiste, mais en même temps une artiste évidemment complètement particulière, puisque c'est une artiste qui ne veut pas faire de l'art, une artiste qui agit sans volonté, quoi. Et là, c'est vraiment le deuxième point. Le premier point, c'est la manière dont la nature glisse en quelque sorte d'une notion abstraite jusqu'à un spectacle concret. Et le deuxième point, c'est la façon dont la nature n'est plus l'objet de l'art, mais devient une artiste elle-même, et une artiste paradoxale, puisque c'est une artiste qui ne fait pas de l'art.
Après, je vais vous demander de cette nature, donc du coup, qui devient maîtresse, qui devient autonome. Est-ce que c'est à partir de là, justement, où se crée peut-être une querelle entre le jardin à l'anglaise, le jardin à la française, donc un jardin qui serait libre de s'exploiter lui-même, et un autre jardin qui serait plutôt autoritaire, géométrique, très cartésien, donc celui à la française. Est-ce que c'est à partir, justement, de toutes ces questions-là que se crée cette petite querelle?
Oui, enfin, cette querelle, je dirais, elle fait partie en quelque sorte, de l'évolution même du mot de nature, puisque la nature devient quelque chose qui est doué d'une sorte d'autodéveloppement et d'autodéveloppement qui s'oppose à ce qui est le domaine de l'art et de la technique, quoi. Alors bon, c'est une histoire qui comprend en même temps plusieurs étapes, quoi. La première étape, effectivement, c'est l'opposition jardin à l'anglaise, jardin à la française. C'est la constitution de toute une esthétique qui est une esthétique d'abord de la ligne courbe contre la ligne droite, quoi. Parce que bien sûr, quand on pense jardin à la française, on pense Versailles, on pense ligne droite, géométrie, symétrie, et bien sûr, on pense aussi absolutisme, quoi. Et puis, paradoxalement, ça servira plus tard à penser aussi la Révolution française, parce que c'est aussi la symétrie, la géométrie, et puis on coupe les têtes, quoi. Il y a cette espèce d'opposition qui se forme très, très rapidement du jardin à l'anglaise, justement, comme jardin libre, ou contre le jardin français, disons comme ça, géométrique, quoi. Et qui d'abord va s'articuler autour d'une chose, qui est l'opposition de la ligne courbe à la ligne droite. Donc, disons, ce qui est censé vraiment caractériser le jardin anglais, bon, c'est le fait que, justement, il n'y a pas d'angle, qu'il n'y a rien d'abrupt, que tout y est comme ça, arrondi, moelleux, serpentin. Bon, le grand terme à l'époque, c'est la ligne serpentine. Donc, voilà, il faut que les pièces d'eau, comme ça aussi, aient des avancées, des reculs, il faut que les allées soient courbes, il faut qu'il y ait partout un petit peu des espèces de vallonnements un petit peu moelleux, quoi. Donc, c'est effectivement ce qui définit un certain idéal du jardin à l'anglaise. Et bien sûr, ça va du même coup se lier à une certaine idée aussi de la monarchie anglaise, quoi. La monarchie anglaise comme la monarchie justement libérale, où les choses en quelque sorte peuvent suivre leur destin naturel, où les hiérarchies sont naturelles. Il y a tous au fond cette espèce de grand thème, enfin, qui alimente la philosophie de Burke, qui va alimenter aussi toute la pensée contre-révolutionnaire, quoi, à savoir qu'il y a justement un jardin naturel qui correspond à une société naturelle, où il y a une hiérarchie qui est elle-même naturelle, où au fond on peut dire que les classes se répartissent dans l'espace social, à la manière un petit peu dont la lumière se répartit dans un paysage. Quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très important, et en même temps, ça n'est qu'une étape, parce qu'après, ce modèle du jardin anglais comme, disons, privilège de la ligne courbe va lui-même être contesté.
Oui, voilà, c'est ça, c'est que justement, cette ouverture vers la liberté à travers ces lignes ondoyantes, un petit peu courbes, tout ça, certains théoriciens comme Richard Pelknight ou Uvendal Price sont contre au final. Au bout d'un moment, ils vont dire que en libérant un peu trop, c'est une liberté volontaire, donc contrainte, donc il est de nouveau question d'artificiel, et ils reprochent aussi un certain orgueil des propriétaires à traiter le paysage et la nature comme leur propre possession. Donc au final, ça annule un petit peu l'idée principale de libérer un espace non géométrique.
Oui, c'est-à-dire que les auteurs auxquels vous faites allusion, Richard Pennight et puis Uvendal Price, bon, ils écrivent dans les années 1790, dans les années de la Révolution française. Il faut avoir toujours un petit peu ce contexte dans la tête. C'est assez important, quoi. Et donc, bon, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ben, ils vont dire que les lignes courbes, les vallonnements moelleux, comme ça, les lacs ondoyants, les chemins serpentins, ben, tout ça est aussi l'objet d'une volonté architecturale, qui est en fait en réalité aussi autoritaire que les jardins en ligne droite à la française. Donc, il y a par conséquent cette critique qui va dire au fond que ce qui s'oppose à la ligne droite française, ce n'est pas tellement la ligne courbe, ce n'est pas la ligne serpentine, c'est une autre idée de la liberté. Cette idée de la liberté, elle est beaucoup liée à l'idée de l'absence de sélection, à l'idée du mélange. Ouais, notamment, vous parliez de Uvendal Price, il y a toute une espèce de théorie en quelque sorte, précisément, qui renvoie à cette idée des scènes de la nature, que les scènes de la nature que la nature compose sont des scènes où tout peut se mélanger librement. Par conséquent, il ne s'agit pas d'opposer le courbe au droit, il s'agit de regarder un petit peu ce que fait la nature. Qu'est-ce que fait la nature? Il se passe qu'il y a des branches qui s'envoient un petit peu dans tous les sens, que les lignes se brouillent, même Richard Pennight dira que dans la nature, il n'y a pas de ligne. Donc, ce n'est pas droit ou courbe, il n'y a pas de ligne dans la nature. Dans la nature, il y a comme une espèce de connexion. Bon, il y a un terme qui est très important à l'époque, donc qui est pratiquement intraduisible en français, qui est intricacy. La façon dont les choses vont se mélanger. Quoi. Et le principe des scènes de la nature, bon, c'est l'intricacy. Et c'est ça qu'au fond que l'art des jardins doit imiter. Et bien sûr, ça donne aussi une autre idée du rapport entre, disons, scènes de paysage et puis organisation sociale, quoi. Puisque à ce moment-là, il y a une espèce de dénonciation, en même temps que de la volonté architecturale, dénonciation d'une certaine idée de la liberté qui est quand même liée très étroitement au propriétaire qui aménage son espace. Bon, justement, il va avoir des grands espaces bien dégagés, il peut avoir une vue justement sur des vallonnements, sur des lignes serpentines, bon, et ainsi de suite. Voilà, il veut un peu comme tout embrasser lui aussi de son espace. C'est pour ça, bon, effectivement, il n'hésite pas éventuellement à mettre un petit peu de côté. Bon, s'il y a des habitations de paysans, s'il y a des villages qui gênent, on va les détruire, quoi. Oui. On va les détruire. Donc, il y a donc tout ça finalement. À savoir que l'idée de ce parc à l'anglaise, symbolisé par la création de Lancelot Brown, ben c'est quelque chose comme proprement, au fond, une espèce de cartographie de la propriété, comme ça. Et donc, ce qui va s'opposer à ça, c'est une nature qui, on peut dire qu'elle est. Elle est libre dans la mesure où elle est égalitaire. Égalitaire voulant dire qu'elle ne sélectionne pas. Quoi. Elle ne dit pas un arbre, elle ne dit pas une pièce d'eau, elle ne dit pas un ruisseau, un rocher, tu vas être là. Quoi. Donc elle les combine librement, ou en elle, ils se combinent librement.
Et justement, il y a la question dans l'intricacie, il y a la question aussi du pittoresque, justement, où vous revenez plusieurs fois, enfin ça jalonne aussi votre livre. Alors qu'est-ce qu'exactement le pittoresque à cette époque-là? Parce qu'au final, il change aussi, ce terme-là change de définition au XVIIIe siècle, non?
Le pittoresque, si vous voulez, au sens strict, c'est ce qui mérite d'être peint. C'est ce qui mérite d'être peint. Or, précisément, dans la tradition, on peut dire académique, un paysage comme ça, avec des arbres, des vaches, un chemin de campagne, ça ne mérite pas d'être peint, quoi. Or, il y a cette espèce de renversement qui va se faire, où, le pittoresque va devenir, ce qui est justement la marque, encore une fois, du fond, de ce qui n'est pas créé par l'art. Donc, il y a une espèce de, en même temps, de rapport compliqué, parce que les théoriciens du pittoresque, qu'est-ce qu'ils vont privilégier? C'est bien sûr les lignes brisées, les mélanges, enfin, tout ce qui est fait en quelque sorte, on peut dire, désordre dans la nature, quoi. Mais simplement ce qui est trop insignifiant, trop anodin, trop vulgaire pour intéresser la grande tradition picturale, quoi. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, au fond, leurs modèles, ce sont des peintres, quoi. C'est-à-dire que le pittoresque, c'est pas simplement les choses un peu, curieuses, comme ça, que la nature forme, amas de rochers, fouillis de végétation, non. Le pittoresque aussi, c'est quelque chose que, au fond, des peintres ont su voir. Parce que vraiment, ce qui est intéressant dans ces deux théoriciens, là, Knight et puis Price, c'est que ce sont d'abord des amateurs d'art, quoi. Et que leur idée même de la nature, de la liberté de la nature, c'est à des peintres qui l'empruntent. Il y a notamment Claude Lorrain qui est vraiment la grande référence à l'époque, le grand maître, quoi. Et par conséquent, au fond, il s'agit justement dans le pittoresque d'une espèce, on peut dire, d'assemblage qui est un assemblage intéressant, mais intéressant parce qu'un regard, a su en quelque sorte le cerner, a su en quelque sorte comme le construire, ou lui donner la lumière, la tonalité qu'il fallait, quoi. Donc le pittoresque, qu'est-ce que c'est? C'est une nature qui est en liberté, une nature qui n'est plus ordonnée à la manière académique, mais en même temps c'est une liberté que des peintres seuls nous ont appris à regarder, quoi. Et ça, on peut l'illustrer, même si, il n'en parle pas tellement à l'époque, par tous ces paysages d'un peintre comme Gainsborough à l'époque, où effectivement, il y a les cottages des pauvres paysans, les sentiers, les charrettes qui passent sur les sentiers, les bœufs qui vont boire à l'étang, donc toute une espèce de vie qui est une vie vulgaire, quoi, dans la tradition académique, les grands sujets, c'est les grands sujets qui font les grandes œuvres, quoi. Et puis, on est effectivement au XVIIIe siècle, dans cette révolution esthétique, au moment où le rapport entre la noblesse d'un sujet et puis la noblesse de l'œuvre est en train de se défaire. Le jardin est un des lieux privilégiés, ou le paysage, un des lieux privilégiés où ça se défait.
Et justement, vous parlez d'esthétique, c'est un terme relativement récent, en plus, dans le XVIIIe siècle, vu qu'il est né en 1750. Et il est question d'une dualité entre le beau et le sublime. Et justement, en quoi la nature, ou peut-être même la peinture de paysage, va aussi changer de direction les définitions que l'on prête au beau et au sublime?
Alors d'une part, du côté du beau, ce qui va devenir essentiel, au fond, ce n'est pas tellement l'ordre que la liberté. Et vont essayer quelque chose, justement, encore une fois, qui n'est pas l'objet d'une volonté. Au fond, le XVIIIe siècle, c'est le moment, on peut dire, où l'idée du beau va se dissocier de l'idée de l'art. Et bien sûr, c'est ce qui est au centre de la critique du jugement de Kant, avec l'idée que le jugement esthétique est un jugement sans normes. Le jugement sur le beau est un jugement qui s'opère sans concept. Quoi. Donc, il y a du côté du beau, cela. Bon, du côté du sublime, c'est une affaire un peu compliquée parce que le sublime, dans la tradition antique, ça remonte très loin, c'est essentiellement quelque chose qui concerne le langage. C'est une catégorie de la poésie. Donc, le sublime, c'est le style élevé. Bon, pour parler du style élevé où on parle des grands sujets, mais aussi avec comme une espèce de passion qui emporte le poète ou l'orateur. Quoi. Bon, ça, c'est quelque chose qui est, effectivement, encore vivant, enfin, qui au fin du XVIIe siècle, lorsque Boileau traduit le traité du sublime. Et puis, justement, il y a une première évolution, c'est lorsque Burke, donc, le grand théoricien, on peut dire, du beau et du sublime en Angleterre au XVIIIe siècle, lorsque Burke écrit sa recherche philosophique sur les origines des idées du beau et du sublime, il va en quelque sorte comme rabattre le sublime. Quoi. Au fond, le sublime, ça va devenir quelque chose qui est lié à la terreur, qui est lié à la nuit, qui est lié à l'étendue, qui est lié vraiment, on peut dire, à toute une sorte de sentiment, on peut dire, de peur, d'abaissement, d'humiliation. Ça, c'est la deuxième étape. Quoi. Et puis, il y a cette troisième étape où on peut dire que ça va devenir complètement différent, à savoir que le sublime va être non plus quelque chose comme une espèce d'abaissement, de peur, qui est lié au pouvoir aussi. Le sublime va être aussi quelque chose comme un témoignage de liberté et d'une liberté de la nature. Donc. Et bon, c'est effectivement ce qui se passe à travers ces descriptions des paysages sublimes dont je parlais tout à l'heure, donc ces descriptions d'Alexander Gilpin, de ces voyages où véritablement il met véritablement, on peut dire, à la mode le voyage sublime avec les lacs dans lesquels vont se refléter les montagnes, mais aussi les éboulis de rochers, mais aussi la surface calme des lacs, mais encore, disons, les orages qui vont déchaîner les eaux. Bon, il y a toute une espèce aussi de développement de peinture, de paysages de ce genre. Bon, bien sûr, il y a tous les paysages de l'Etna, bon, les laves rougeoyantes de l'Etna, les éruptions, tous les tableaux d'orage, ou tableaux de montagnes, de glaciers, de chutes, bon, qui sont vraiment très importants à l'époque, et qui vont aboutir à ce concept, effectivement, du sublime, un concept où le sublime n'est plus du tout, justement, lié à la terreur, mais à une forme d'élévation. Quoi. Et notamment, il y a disons qu'une théorie de l'art des jardins, donc d'un Allemand, Hirschfeld, quoi, qui précède de peu Kant, quoi, qui va vraiment développer cette idée le paysage qui est quelque chose qui pousse véritablement l'esprit en dehors de ses limites normales, qui lui fait véritablement découvrir qu'il est l'habitant d'un autre univers. Quoi. Et bon, c'est ça, bien sûr, qui va être au centre de Kant, même si Kant dit bien que le paysage n'est pas sublime, que le paysage est l'occasion de découvrir en soi une puissance supérieure. Bah, il n'empêche qu'il y a, ce moment extrêmement important, où la nature est grande, et la nature est inspiratrice, non seulement comme principe d'ordre, mais bien plus comme principe de désordre, et d'excès.
Et du coup, ça se concrétise chez certains peintres, effectivement, cette idée quand même de sublime, en fait, chez les philosophes aussi, mais chez les peintres comme Gainsborough, justement, est-ce qu'il est question de ça aussi, en montrant les tempêtes, en montrant des arbres toujours pris dans une tempête, dans...
Oui, c'est pas tellement Gainsborough. Gainsborough est plutôt du côté du pittoresque, quoi. Mais en revanche, bon, effectivement, il y a ces grands tableaux de sublime. On peut penser, à tous ces tableaux de tempête que font des peintres comme Lutherbourg ou comme Vernet, à ces éruptions de l'Etna, qui vont fleurir aussi. Bon, il y en a, je crois, un modèle dans le dans mon livre, disons, qui est une éruption de l'Etna par Johan Christian Dahl, bon, qui est un peintre norvégien proche de David Friedrich. Voilà, bon, il y aura bien sûr aussi disons les peintures de David Friedrich, un petit peu les montagnes, les glaciers. Donc voilà, il y a véritablement bon tout un développement, je dirais, d'une peinture sublime. Et bon, notamment, bon, disons, les éruptions de l'Etna, alors il y en a un nombre. Bon, à l'époque, aussi en Angleterre, bon, on pensait à un peintre comme Wright of Derby aussi, bon, qui a fait beaucoup de paysages sublimes, quoi. Donc c'est un petit peu une inspiration différente de celle de Gainsborough. C'est moins la beauté du vulgaire que véritablement le sublime de la surpuissance.
Et justement, toute cette appréciation de la nature, en fait, à travers le jardin, mais aussi à travers la peinture de paysage, elle va subir un déclin, justement, au cours de la première moitié du 19e siècle. Justement, vous le dites à la fin de votre livre, c'est Hegel qui, lui, va du coup remettre l'art des jardins comme étant un simple complément de l'architecture. Donc, il fait c'est une sorte de régression, entre guillemets. Et pourquoi, en fait, ce constat chez Hegel, justement? Pourquoi ce déclin, justement, de cette fascination qu'on a pour le paysage, qui devient aussi une sorte de métaphore de la politique? Pourquoi, justement, là, on chasse tout au début du 20e siècle, du 19e siècle, pardon?
Bon, bah, entre-temps, bien sûr, bon, il y a eu la Révolution, encore une fois, toute cette affaire française, toute cette affaire est contemporaine de la Révolution. Bon, donc, Burke, disons, a établi vraiment un rapport entre un type de paysage et, disons, un type de société où, bien sûr, la Révolution est du côté des méchants et du côté des mauvais, des jardiniers, la ligne droite, quoi. Et puis, à l'époque, il y a, bien sûr, le grand enthousiasme pour la nature, bon, qui est aussi hérité de Rousseau et puis d'une tradition d'héritier de Rousseau, justement, pour dire qu'il y a comme une espèce de rapport entre la sublimité des montagnes et l'éthos républicain, quoi. Et puis, bon, en Angleterre, en Allemagne à l'époque, il faut se souvenir, donc, il y a des jeunes gens qui s'appellent Hegel, qui s'appellent Schelling, qui s'appellent Hölderlin, qui se prennent de passion pour la nature, mais aussi de passion pour la Révolution française. Qui vont lier les deux, quoi. Bon, je cite un poème de jeunesse, donc, de Hegel, que Hegel donc a adressé à Hölderlin. Bon, il est question véritablement de la nature sublime et du désir, en quelque sorte, véritablement de se fondre dans cette nature sublime, quoi. Bon, à la même époque, bon, il y a un peu plus tard, il y a Hölderlin donc qui va écrire sa tragédie d'Empédocle, quoi. Donc Empédocle, donc le fameux philosophe de l'Antiquité qui est connu pour s'être jeté dans le cratère de l'Etna, quoi. Et bon, Hölderlin, bon, en fait un communiste, quoi. C'est-à-dire que Hölderlin fait d'Empédocle à la fois, donc, au fond, bon, un théoricien de la nature sublime et puis, disons, un apôtre du communisme qui va vraiment, bon, inciter ses contemporains à créer, disons, une communauté à l'image de cette grande nature, cette nature déesse, quoi. Alors bon, après ça, il y a la Révolution, qui se développe, la Révolution qui devient conquérante, qui se met à envahir un petit peu tous les pays autour de la France, qui va donner lieu à l'Empire. Donc il y a tout un désenchantement à l'époque à l'égard de cette Révolution, dans laquelle, bon, beaucoup ont mis effectivement des grands espoirs. Bon, il y a Hegel, il y a Hölderlin d'un côté. Bon, je fais aussi allusion, disons, au jeune Wordsworth, disons, qui voyage en France, qui découvre les paysages de la Révolution, une espèce de grand enthousiasme. Et puis après, bon, bah, disons, quand la France se met à envahir la Suisse, comme ça, puis 13e de liberté, bon, des gens comme ça se disent, bon, bah, non, c'est pas ça. Donc il y a évidemment tout un mouvement de repli, de recul. Et bien sûr, quand Hegel écrit son esthétique, d'abord, il l'écrit pas vraiment. Il fait des cours d'esthétique, donc c'est 30 ans après la Révolution. C'est très loin. Il s'agit maintenant précisément de couper net, en quelque sorte, hein, pour dire à la racine, cette espèce d'enthousiasme révolutionnaire qui vont mêler la nature et puis la Révolution, quoi. Et par conséquent, c'est très net dans l'esthétique de Hegel, quoi. Évidemment, il n'est plus question de nature sublime. Même la nature, disons, pratiquement, est comme chassée chassé en dehors de l'art. Et effectivement, l'art des jardins se trouve très, très bizarrement dans l'esthétique, même si ce n'est pas Hegel qui a publié le livre, puisqu'il était mort. Mais en tout cas, ça se trouve très bizarrement, disons, derrière l'architecture du Moyen-Âge. On ne comprend pas du tout pourquoi, quoi. Mais ce qu'on comprend, c'est que véritablement, Hegel l'a vraiment mise au placard, quoi. On peut dire, quoi. L'art des jardins, l'idée de la nature artiste, tout ça, c'est mis au placard, quoi. L'art est une affaire de l'esprit, et l'État aussi, le gouvernement, c'est une affaire de l'esprit. Il ne s'agit pas que, disons, on veuille mettre la nature sublime dans tout ça, quoi.
Et du coup, j'aurais bien aimé, peut-être pour terminer aussi, ouvrir justement le débat sur l'actualité. Est-ce que vous pensez, selon vous, qu'aujourd'hui, on vit aussi peut-être un deuxième temps du paysage, pour reprendre justement un petit peu votre idée du livre? Est-ce qu'aujourd'hui, à travers ne serait-ce que... effectivement, la crise écologique, mais surtout la prise de conscience de l'urbanisme, de l'architecture, de certains artistes aussi, de l'importance de la végétation, du paysage rural dans la vie des hommes, en fait. Est-ce qu'on vit un deuxième temps aussi, peut-être, du paysage?
Je ne crois pas qu'on vive rien qui ait l'intensité de ce qu'a été ce temps du paysage-là, quoi, si vous voulez. Je veux dire, le paysage urbain... Malgré tout, c'est pas une nouveauté. Enfin, je veux dire, si on pense qu'au 19e siècle, il y a eu l'époque des grands parcs, genre Central Park, il y a eu, ou bien, disons, genre Butte-Chaumont, disons, à Paris, quoi, par exemple. Malgré tout, je dirais que le paysage urbain, qu'il est pratiqué, tel que je le vois à Paris, c'est quand même beaucoup plus quelque chose qui est, un peu lié à des préoccupations écologiques, mais au sens, à ce moment-là, on peut dire une sorte d'économie, en quelque sorte, de la nature, et pas véritablement d'une vision, on pourrait dire, paysagère de la nature, quoi. Et puis, c'est lié aussi à une espèce de transformation de Paris, de gentrification, qui fait que, de plus en plus, Paris, en quelque sorte, est transformé en une espèce de cadre agréable, disons, pour les touristes, quoi. Évidemment, cette année, ça tombe mal pour les touristes, bien sûr, mais voilà. Donc, je ne pense pas véritablement qu'il y ait une pensée forte du paysage. C'est vrai qu'il y a une pensée de la nature, une pensée des équilibres naturels, mais qui est effectivement, je dirais, très, très loin de la nature telle qu'elle a été comme ça, une découverte au XVIIIe siècle, quoi. Lorsqu'on parle de la nature aujourd'hui, beaucoup, c'est malgré tout dans l'idée d'un ensemble de ressources qu'il faut arriver à ménager, quoi. Ce qui, évidemment, n'est pas du tout le problème au XVIIIe siècle. Ça, les gens n'ont pas du tout l'idée de la nature comme ça. On parle de la nature aujourd'hui beaucoup, mais les écologistes eux-mêmes en parlent souvent dans des termes qui sont des termes économiques, quoi. Finalement, on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement une sensibilité au paysage. Il ne faut pas généraliser, quoi. Mais je ne pense pas, si vous voulez, qu'on soit véritablement dans cette espèce de rapport à une nature qui est à la fois un concept, un lieu, un objet d'émerveillement, et puis une espèce de principe qui va dicter des lois comme au XVIIIe siècle.
Très bien. Mais c'était pour avoir un peu cet avis-là, justement, sur comme le paysage est le reflet d'un ordre social et politique, comme vous dites, est-ce qu'il y avait peut-être un parallèle avec aujourd'hui ce qui se passe avec le paysage, voilà. Mais...
Oui, je crois qu'effectivement, malgré tout, le paysage urbain, effectivement, c'est un petit peu du... c'est un peu malgré tout du décor, quoi, aujourd'hui. C'est pas véritablement du paysage, quoi. Enfin, du moins, tel que je le conçois. Effectivement, un peu partout dans des villes, on plante des arbres. C'est-à-dire, vous prenez dans toutes les élections municipales, tous les candidats de tous les partis promettaient de planter des arbres, quoi. Et en même temps, je dirais que c'est une espèce, je dirais, de facilité, quoi. Malgré tout, une ville, c'est pas simplement un endroit où il y a des arbres, quoi.
Mais merci Jacques Rancière d'avoir répondu à toutes ces questions autour de votre livre Un temps du paysage, d'avoir éclairci quelques concepts aussi comme le beau et le sublime dans la peinture de paysage, mais aussi dans l'art des jardins. Et donc merci beaucoup et puis à très bientôt.